Les séminaires du Collège de France.
Nous continuons avec le séminaire et aujourd'hui j'ai le très grand plaisir vraiment d'accueillir un très cher collègue et ami et grand spécialiste de littérature française, vraiment très important, que j'apprécie et estime énormément, qui est Paolo Tortonese. Paolo Tortonese est professeur de littérature française du 19e siècle à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Mais c'est un spécialiste qui couvre tout le 19e et en fait qui couvre, de cette manière, par son approche, toute la théorie littéraire et la méthode et les méthodes de lecture et d'interprétation. Paolo Tortonese s'est d'abord intéressé au romantisme, à Théophile Gautier. Il a étendu ses travaux jusqu'au naturalisme, à la littérature fantastique, au rapport entre art et littérature, le rapport de la littérature à la pensée médicale. Mais récemment, ce qui je trouve intéressant dans les travaux de Paolo Tortonese, c'est qu'il s'intéresse à la théorie, à l'histoire du roman, à l'histoire des théories des représentations littéraires et artistiques, avec une dimension philosophique qui est finalement assez rare dans les études littéraires françaises, et qui est pourtant, je trouve, très importante et essentielle pour comprendre les enjeux les plus profonds de des études littéraires, de la manière de lire, de comprendre les textes. J'apprécie beaucoup la vision globale qui est celle de Paolo Tortonese, de l'histoire des idées, qui permet des mises en perspective indispensables pour sortir de la myopie du présent. Alors, il y a de très nombreux livres de Paolo, je n'en citerai que quelques-uns, les derniers. Vous entendrez dans les titres justement ce que je viens de dire. Il y a « L'œil de Platon et le regard romantique » chez Quimet en 2006. « L'homme en action, la représentation littéraire d'Aristote à Zola » au Classique Garnier en 2013. Donc une vision cavalière au sens positif et global du terme depuis Aristote jusqu'à Zola, des problèmes de la représentation. On entend là Auerbach dont Paolo Tortonese est un excellent lecteur et à qui il a consacré un très beau livre collectif que je vous conseille. Auerbach, vous savez, est aussi l'un des modèles et des saints patrons de tout comparatiste. Ce volume collectif s'intitule « Erich Auerbach, la littérature en perspective » et il est paru en 2009. Et puis, le dernier livre, et qui est un peu la raison pour laquelle j'ai invité ici Paolo Tortonese, et paraît très important. Très important aujourd'hui, très brûlant, il pose des questions vraiment essentielles. Il s'intitule « La faute au roman, littérature et morale ». Il est paru chez Vrin en 2023. Et la question qu'il pose, c'est, elle est toute simple comme cela, mais fondamentale. Lorsque nous lisons un roman, quelle est la part de jugement moral que nous devons avoir? En quoi la moralité, la question morale est-elle impliquée par la lecture de romans? Est-ce que l'intervention de la morale entraîne nécessairement une forme d'obscurantisme, comme on aurait tendance à le voir peut-être, ou à le penser, quand on entend certaines lectures actuelles d'œuvres anciennes par les contemporains? Ce sont ces questions-là très brûlantes que pose Paolo Tortonese, et je pense que c'est de cela qu'il va nous parler, à peu près, me semble-t-il, dans cette conférence qui s'intitule « Justice et injustice poétique ». Ben voilà, je te cède la parole, Paolo.
Merci, cher William, de m'avoir donné l'occasion de rencontrer le public du Collège de France. Effectivement, la question, la première au moins, que je veux me poser avec vous aujourd'hui, et celle que tu viens d'évoquer, elle est toute simple. Quelle place a le jugement moral dans nos lectures? Quand nous lisons, jugeons-nous moralement le comportement des personnages? Jugeons-nous la valeur morale d'une œuvre littéraire? Cela entraîne d'autres questions, vous le voyez bien. Quel rapport y a-t-il entre l'appréciation morale et l'appréciation esthétique? Est-ce qu'un moral nous plaît? Est-ce qu'un roman nous plaît parce que nous l'approuvons sur le plan moral? Peut-il nous plaire en dépit d'un jugement moral défavorable de notre part? Mais ensuite, je voudrais également me demander, est-ce que le jugement moral du lecteur s'appuie sur la nature même de la narration? Autrement dit, est-ce qu'un récit littéraire est fondé sur des données morales? Est-ce qu'il est fabriqué avec des matériaux de nature morale? pourrions-nous dire que le bien et le mal sont des espèces de matériaux de construction d'un récit. Pour traiter la première question d'abord, je vais reprendre une anecdote célèbre que j'ai souvent racontée à mes étudiants et dans d'autres occasions, parce qu'elle me semble poser très clairement les termes du problème. C'est une anecdote qui a été racontée par Stendhal d'abord et qui a été reprise par Pasolini dans un de ses films, un moyen métrage de 1967 intitulé en italien « Che cosa sono le nuvole ?»« Que sont les nuages ?» C'est un film où les acteurs apparaissent comme des marionnettes tirées par des fils. Tout est fait pour souligner le caractère arbitraire de la représentation, l'artifice de la fiction et de l'art. Ces acteurs marionnettes jouent la tragédie d'Othello. Ils la jouent sur une scène très particulière, une scène de théâtre populaire devant un public issu apparemment des quartiers pauvres de Rome. Le clou du film est une scène cocasse dans laquelle, au moment où Othello étrangle Desdémone, le public s'insurge et monte en scène pour empêcher le crime. Dans trois séquences successives, nous voyons ces trop simples spectateurs d'abord sauver la vie de Desdémone et lui prêter secours, ensuite mettre à mort le coupable Othello et l'encore plus coupable Iago, et enfin porter en triomphe Cassio, l'innocent. Le public agit donc exactement comme un tribunal qui administre la justice. Il reconnaît les bons comportements, identifie les mauvais, démasque les coupables, les châtie et rétablit l'ordre en faisant triompher la vertu. Dans cette conclusion de l'histoire, que le peuple romain impose à la pièce de Shakespeare, nous avons donc le rétablissement simultané de la vérité et de la justice, alors que dans la tragédie originelle, nous avions certes la vérité retrouvée, mais un rétablissement très incomplet de la justice. Iago était puni, Cassio montait au pouvoir, oui, mais la découverte de la vérité intervenait trop tard et ne pouvait empêcher ni la mort de Desdémone, ni le suicide d'Othello. La scène de Pasolini est comique. Nous rions de l'équivoque produite par l'illusion théâtrale sur un public qui peut-être assiste pour la première fois à une représentation de ce genre et qui ne sait pas distinguer le réel du fictionnel. Nous rions de leur ignorance parce que nous, nous sentons et nous sommes plus savants qu'eux. Et pourtant, il y a là de quoi réfléchir. Sommes-nous si entièrement différents d'eux? Quand Flaubert se moque de Bouvard et Pécuchet qui trouvaient les paysages de Walter Scott ressemblants, sans avoir jamais été en Écosse, il nous invite à réfléchir sur le fait que nous tous, nous nous laissons persuader par la lecture. De même, nous devrions considérer avec plus d'attention ceux qui vraiment nous distinguent de la populace de Pasolini. Ce n'est pas tellement que nous jugions autrement l'acte furibond d'Othello. Je crois que personne dans cette salle ne donnerait un prix de vertu à Iago. C'est plutôt que tout en jugeant comme la populace, nous maintenons toujours une distinction entre l'expérience réelle et l'expérience fictive. C'est sur ce point qu'on a beaucoup insisté dans les commentaires de l'anecdote de Stendhal que Pasolini a transformée à sa guise. La version de Stendhal est plus connue. Elle était très chère à Roland Barthes, qui l'a racontée à ses élèves. Antoine Compagnon en a témoigné. C'est l'histoire du soldat de Baltimore, on l'appelle ainsi. Ce soldat qui aurait tiré un coup de fusil sur l'acteur jouant Othello dans un théâtre de Baltimore pour, évidemment, l'empêcher de tuer Desdémone. Roland Barthes, vous vous en doutez, y voyait la caricature d'un certain type de critique littéraire qui croit au caractère transitif de la littérature. C'était le mot de l'époque. À l'époque, on disait qu'il fallait défendre une position qu'on appelait l'intransitivité de la littérature. Mais il est, je trouve, un peu facile de se moquer ainsi. alors que nous réagissons émotionnellement de la même manière que ce soldat, à chaque fois qu'une fiction efficace nous entraîne dans un drame moral. L'anecdote est donc interprétée, ou était interprétée, comme la preuve des conséquences néfastes de toute croyance et de la nécessité de prendre ses distances pour bien comprendre. Pasolini est probablement sur la même longueur d'onde que Barthes. Il venait, sans aucun doute, de lire « Les mots et les choses » de Michel Foucault. Mais la question est vieille, elle est très vieille, aussi vieille que la littérature occidentale. On se la posait déjà dans l'Antiquité. Plutarque rapporte un mot de Gorgias, le philosophe sophiste du IVe siècle, qui, selon le témoignage de Plutarque, qui a vécu bien plus tard, aurait dit ceci. Gorgias disait que la tragédie était une imposture où celui qui savait tromper avait plus de vertu que celui qui ne savait pas tromper. Et l'homme qui se laissait tromper, plus de sagesse que celui qui ne pouvait être trompé. Gorgias défend donc l'idée qu'il faut se laisser tromper, alors que la critique moderne a plutôt affirmé le contraire, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle. Elle a affirmé qu'il ne faut pas croire, qu'il faut se défendre de l'entraînement émotionnel, garder la tête froide pour pouvoir examiner l'œuvre scientifiquement, objectivement. Je pense que Gorgias avait raison, mais bien sûr à condition qu'on fixe des limites à la croyance. Le lecteur, le spectateur, croit et en même temps ne croit pas. Les neurosciences d'aujourd'hui nous apprennent que la frontière qu'on ne dépasse pas tout en croyant à la fiction est précisément celle de l'action. À la différence des Romains de Pasolini, nous détestons, nous sympathisons, nous pleurons peut-être, mais nous ne nous levons pas de notre fauteuil de théâtre, nous n'agissons pas, nous ne prolongeons pas notre émotion en une action. En fait, l'opposition entre croyance et non-croyance est sans doute judicieuse en théorie, mais ne correspond pas à notre expérience intérieure. Le propre de la fiction littéraire est de nous faire vivre une expérience double, on l'a souvent dit. On pourrait la comparer, cette expérience, à celle que Diderot attribue à l'acteur de théâtre, le comédien, comme il dit. Vous vous en souvenez, pour Diderot, l'acteur demeure toujours conscient d'être lui-même, même lorsqu'il s'identifie au personnage et en éprouve toutes les passions. Il y a donc un paradoxe du lecteur, tout à fait analogue au paradoxe de l'acteur. Nous pleurons sur les malheurs de Sophie, nous compatissons avec Fleur de Marie, l'héroïne des Mystères de Paris, nous exécrons le comportement des méchants de Dickens ou de Victor Hugo. Même en dehors de la littérature enfantine, populaire ou mélodramatique, nous tremblons devant le destin de Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, ou d'Ephibriste, la femme adultère de Fontane, ou devant l'existence torturée de la protagoniste d'Une vie de Maupassant. Nous détestons leurs persécuteurs exactement comme nous détesterions un homme dont les méfaits nous sont connus dans l'expérience réelle. Et pourtant, nous savons aussi, à chaque instant de la lecture, que cela n'est pas une réalité mais une fiction. C'est peut-être grâce à cette duplicité que la littérature n'est pas traumatisante comme la réalité, mais au contraire, elle est cathartique, elle nous soulage. Or, mettons de côté cette question qui est celle du jugement. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, qui est celle de la croyance, pardon, et abordons la question du jugement. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, cette question du jugement, 45 ans après la mort de Barthes, elle est bien plus d'actualité dans les études de littéraire que celle de la croyance. La version de Pasolini attribue, on l'a vu, au public tout entier la fonction de juger. et non pas seulement à un individu dérangé. Et surtout, la version de Pasolini accorde au public cette capacité d'exercer la justice. Par là, le public corrige la pièce de Shakespeare en réécrivant sa conclusion. Il est tout à fait concevable que l'histoire de Desdemone et Othello se termine autrement. L'histoire, d'ailleurs, avait déjà été racontée avant Shakespeare. Nous pouvons imaginer le récit se terminant par l'intervention d'un ou plusieurs personnages faisant exactement ce que fait le public romain et permettant un dénouement heureux où l'ordre serait rétabli et le mal évité. Si vous y songez un instant, cela n'aurait rien d'extraordinaire si on pense à notre tradition littéraire. La preuve en est apportée par une version française d'Othello, signée par Jean-François Ducy et mise en scène à Paris au Théâtre de la République, d'abord en 1792 et puis dans une version un peu différente en 1793. Ducy apporte des changements notables entre les deux versions. Dans la version de 92, Othello tue puis se suicide, comme chez Shakespeare. Mais dans la version de 93, Ducy a été contraint de changer le dénouement, de faire précisément accourir un groupe de personnages qui sauvent Desdemone, démasquent la calomnie et réconcilient les époux. Faisant abstraction des genres littéraires, on peut rappeler les propos d'un des premiers défenseurs du roman en France qui s'appelait Pierre-Daniel Huet et qui opérait à la fin du XVIIe siècle. Voici ce qu'il écrit. « La fin principale des romans, ou du moins celle qui le doit être et que se doivent proposer ceux qui les composent, est l'instruction des lecteurs, à qui il faut toujours faire voir la vertu couronnée et le vice puni. » Cette règle a été sans doute aussi souvent trahie que respectée. Cela n'enlève rien à son importance. Elle est faite de deux volets, crime puni et vertu récompensée. Souvent, on en a retenu un seul. Les deux volets correspondent aussi, sans coïncider parfaitement, avec des genres littéraires. La punition du méchant à la tragédie, et le succès du gentil à la comédie. Mais on croise facilement les deux, ainsi qu'on les applique plus ou moins complètement. En réalité, 1000 nuances sont possibles à partir de cette règle. La conclusion heureuse du côté de la vertu, celle qui fait réussir les gentils, celle du mariage final des amoureux, par exemple, nous l'appelons en français « happy end », ce qui est une curieuse transposition de l'anglais « happy ending ». En anglais, l'expression « happy ending » existe depuis le XVIIIe siècle. Le grand romancier Richardson se plaint déjà, dans une lettre à un de ses amis, des lecteurs qui auraient préféré un « happy ending » à son roman « Clarissa », alors que lui, il lui avait donné une conclusion à ses yeux plus noble, ce qu'il appelle une mort triomphale de l'héroïne. Mais l'usage le plus courant de l'expression « happy ending » se fait au XXe siècle, et il concerne le cinéma, surtout hollywoodien. C'est un usage moderne et désigne le plus souvent une conclusion dans laquelle deux personnes qui s'aiment arrivent à surmonter les difficultés qui empêchent leur union, difficultés qui peuvent être imposées par le milieu, les familles, ou bien à l'époque moderne par leur propre comportement. Ce schéma narratif, malgré les apparences, est très ancien, très hollywoodien et très antique. Il appartient aux romans grecs des premiers siècles après Jésus-Christ, par exemple aux Éthiopiques, et il appartient aussi à la comédie grecque et latine. Il demeure dominant dans la comédie moderne et il est fort fréquent dans le roman. Dans l'ensemble, on utilise plus souvent « happy ending » pour le volet « vertu récompensée », alors que le crime puni, on a tendance à se servir, pour le crime puni, on a tendance à se servir d'une autre expression que j'ai mise dans le titre de ma communication, et qui est celle de justice poétique. En principe, rien n'empêcherait de les considérer comme de parfaits synonymes. La mauvaise fin du personnage mauvais doit être considérée comme un dénouement heureux. Pensez à la fin de Don Juan qui, vous le savez, est une comédie. L'expression « justice poétique » a été inventée par un homme de lettres britannique qui s'appelait Thomas Rymer à la fin du XVIIe siècle. Rymer l'utilise dans le cadre d'une critique des tragédies de son temps sur la base d'une théorie qu'il attribue à Aristote. Rymer est donc le premier à utiliser ce concept qu'il appelle « poetical justice », alors qu'aujourd'hui on dit plutôt « poetic justice », mais ça ne change rien. Voici ce qu'il écrit, je traduis. « Dans les anciens temps, la poésie était autre chose que l'histoire ou que la loi du pays. La poésie découvrait des crimes que la loi n'avait jamais découverts et punissait ceux que la loi avait absous. L'aréopage a acquitté Oreste. Mais par quelle furie les poètes ne l'ont pas tourmenté? Et à quel point ils ont rendu misérable Édipe, alors que les casuistes excusaient son ignorance invincible? Il y a là une pique contre les catholiques, et les jésuites en particulier. L'ignorance invincible était leur argument. Un autre passage, toujours de Rymer, les poètes considéraient que naturellement les hommes éprouvaient de la pitié quand ils voyaient quelqu'un qui souffrait plus qu'il ne l'avait mérité. Et ils pensaient que le vice n'était jamais dépeint trop laid et effrayant. Par conséquent, pour susciter la pitié ou pour faire détester le vice, ils se souciaient d'être le plus sévère possible dans la punition qu'ils infligeaient. Je voudrais maintenant remonter à une époque bien plus ancienne, au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est le siècle de la poétique d'Aristote, vous le savez, le premier grand traité sur ce qu'Aristote appelle la poésie et que nous appellerions aujourd'hui plutôt la littérature. Le propos d'Aristote sur les valeurs morales se trouve dans deux chapitres de la poétique, énormément commentés tous les deux, le chapitre 2 et le chapitre 13. Au chapitre 13, Aristote écrit que les artistes mimétiques représentent des gens en action. Et il ajoute que ces gens doivent être bons ou mauvais. Ainsi, les actions et les personnages sont immédiatement chargés de valeur. Vous le voyez, et leur valeur est une qualité intrinsèque qui nous permet de classer les deux genres dramatiques différents, la tragédie et la comédie. Les personnes nobles dans la tragédie, les personnes basses dans la comédie. J'ai utilisé le mot « valeur » et non pas un mot plus précis, justement parce que le mot « valeur » a un sens très général. Et ici, il est question à la fois de valeur morale et de valeur sociale. Tout simplement parce que Aristote tient pour acquis que l'élite sociale est moralement supérieure aux classes inférieures. Comme nous ne sommes plus dans une société esclavagiste et nous avons heureusement changé de mentalité, nous séparons le moral du social. Isolons le moral. D'ailleurs, au chapitre 13, le niveau social n'est plus évoqué. Nous y trouvons une schématisation des différents types d'intrigues mise en rapport avec la qualité morale. C'est une sorte de réduction des intrigues à leur forme la plus simple et à leurs éléments minimaux. 5 possibilités. Un homme juste passe du bonheur au malheur. Un homme pas incomparablement vertueux et juste devient malheureux à cause d'une erreur. Un homme méchant passe du malheur au bonheur. Un homme méchant passe du bonheur au malheur. Un homme juste passe du malheur au bonheur. Je vous les ai lus dans l'ordre que leur donne Aristote dans le troisième dans le 13e chapitre. Mais je vous propose maintenant de changer l'ordre, parce que le deuxième cas, en effet, sort de la combinatoire élémentaire et présente déjà une variante particulière. Voici ce que cela donne dans l'ordre que je préfère. Le cinquième est le dernier, parce qu'il est à part. Il sort du schéma. Vous me direz qu'il n'est pas nécessaire d'être un grand philosophe pour penser à ces quatre cas. Mais l'intelligence d'Aristote se révèle précisément lorsqu'il donne le cinquième cas, qui ne coïncide avec aucune des autres combinaisons, ou plutôt qui peut être considéré comme une variante d'un de ces cas, peut-être le premier, peut-être le troisième. Ce cas est le cas de quelqu'un que vous connaissez bien, Édipe. Édipe est en effet un personnage qui n'est, selon les mots d'Aristote, pas prééminent en vertu et justice, mais qui tombe dans l'affliction, non à cause du mal et de la méchanceté, mais à cause d'une certaine faillibilité. La faillibilité traduit ici le mot grec amartia, un mot terriblement difficile à traduire. Certains le rendent par faille tragique ou simplement par erreur. Erreur tragique, on dit souvent. Ce cinquième cas est le parfait exemple de la meilleure intrigue pour, selon Aristote, pour la tragédie et la tragédie seulement. On obtient donc un schéma combinatoire qui fait penser aux structuralistes du XXe siècle. L'intrigue peut être réduite à ses constituants les plus élémentaires, qui sont la paire bon-mauvais et la paire succès-échec. Il y a seulement quatre combinaisons, le mauvais héros réussit, le mauvais héros échoue, le bon héros réussit, le bon héros échoue. Encore plus schématiquement, si vous voulez, cela donne bien, mal, échec, réussite. Mais au lieu d'échec et réussite, nous pouvons écrire malheur et bonheur, sans rien changer en fait, dans l'optique d'Aristote. En effet, dans sa perspective, bonheur et réussite coïncident, parce que l'éthique d'Aristote, vous vous en souvenez, est une éthique eudémoniste, comme disent les philosophes, ce qui veut dire qu'il valorise la recherche du bonheur. L'effort pour atteindre le bonheur est une bonne chose et la capacité de l'atteindre est une bonne chose. Pour Aristote, l'homme bon est l'homme qui réussit à construire sa vie vertueuse comme un exercice réussi, comme un match sportif où il gagne. Bien sûr, sachant que le bonheur n'est pas simplement le plaisir, mais la vie bonne et juste. Or, revenons au schéma. Et voyons plus précisément les brefs commentaires que fait Aristote sur les quatre conclusions logiquement possibles. Le malheur du juste produit répulsion, nous dit-il, et donc il est à rejeter. Le bonheur du méchant est impropre à la tragédie, il n'y a ni pitié ni crainte, mais il n'y a pas non plus de sympathie, donc il est rejeté partout. 3. Le malheur du méchant ne produit pas la pitié et la crainte, ce qui le fait exclure de la tragédie, mais il produit la sympathie, ce qui ouvre une autre possibilité. Le bonheur du juste, dans le quatrième volet, est associé par Aristote au malheur du méchant, ce qui donne ce qu'il appelle la double ordonnance des faits, diplé sustasis, et il nous dit, c'est comme dans l'Odyssée, mais aussi, c'est comme dans la comédie. Mais il est rejeté pour la tragédie. On s'aperçoit qu'en fin de compte, il ne nous reste que deux possibilités, la troisième et la quatrième, puisque les deux premières sont rejetées. Soit parce qu'Aristote constate qu'elles ne correspondent pas à la pratique littéraire qu'il connaît, soit parce qu'il les juge inacceptables en général. Le cas d'Édipe doit donc être considéré comme une nuance apportée au troisième cas, le malheur du méchant. Édipe est un méchant, mais pas complètement méchant. C'est plutôt quelqu'un qui agit mal sans être méchant. Le fait que cette possibilité soit envisagée est très important parce que cela nous indique comment il faut saisir le sens du schéma structuraliste d'Aristote. Ce schéma ne signifie pas que toute intrigue peut être incluse dans l'une de ces quatre catégories, car il ne s'agit pas de catégories, mais simplement de paradigmes, de modèles. Et les innombrables intrigues que l'on peut imaginer doivent simplement se situer quelque part dans le territoire organisé par ces points de repère. Chaque récit est situé plus ou moins loin des modèles, dans les espaces intermédiaires entre eux. L'importance accordée à Œdipe prouve que la valeur morale du personnage, dans la conception d'Aristote, n'est pas une donnée fixe et sans ambiguïté. En dépit de son propre besoin, qu'il a théorisé, de cohérence et de stabilité du personnage, Aristote envisage la possibilité d'un personnage qui serait contradictoire, pas méchant, mais exécutant des actes mauvais. Le personnage doit être saisi dans la relation complexe entre les traits qui définissent son caractère et les actions qui le révèlent. Nous avons donc une sémiologie du personnage fondée précisément sur les contradictions intérieures. Or, ce petit chapitre d'Aristote fait surgir un autre questionnement qui touche de près la sensibilité littéraire du XXIe siècle. La question est la suivante, je l'ai dit au début. Le jugement moral du lecteur est-il simplement un problème de lecture, de réception, ou bien est-il également un problème d'organisation du récit ? Autrement dit, existe-t-il des modalités élémentaires d'organisation morale du récit ? La littérature narrative est-elle objectivement organisée selon des paramètres moraux ? Y a-t-il un fondement objectif sur lequel s'appuie la réaction morale des lecteurs ? Ou, si vous voulez, le bien et le mal sont-ils des données avec lesquelles on construit un récit ? C'est exactement ce que pensait Oscar Wilde lorsqu'il nous dit que le vice et la vertu sont pour l'artiste des matériaux de l'art. Aristote y avait pensé 23 siècles plus tôt. Au XXe siècle, une discipline a prospéré dans les études littéraires qu'on appelle la narratologie. Or, si nous remontons à ses origines, nous trouvons un livre célèbre, « La morphologie du conte » du russe Vladimir Prop, 1928, il y a presque un siècle. Prop nous dit qu'il existe deux types essentiels de personnages, le héros, « герой » en russe, et ce qu'il appelle le « vreditiel ». En anglais, vreditiel a été traduit par le mot villain, qui est comparable au français méchant. Dans le livre de Prop, le vreditiel est l'envers moral du héros, le personnage mauvais et malfaisant. Voici ce qu'il écrit pour le définir. Son rôle est de troubler la paix de l'heureuse famille, de provoquer un malheur, de faire du mal, de causer un préjudice. L'ennemi du héros peut être un dragon, un diable, un brigand, une sorcière, une marâtre, etc. Dans la narratologie française, le terme qu'il a emporté n'est pas méchant, mais antagoniste. Pourquoi ? Sans doute parce qu'on ne souhaitait pas souligner le caractère moral du personnage et on a voulu plutôt lui donner une sorte de neutralité morale. Dans un article de 1966, le grand théoricien du structuralisme et de la théorie du récit de cette époque, qui s'appelait Claude Brémond, critique explicitement Prop et nous dit, et dit que l'antagoniste n'est pas nécessairement un mauvais sujet. Faites un raisonnement autour de Macbeth, par exemple, et vous verrez que ça donne pas mal de difficultés. Quel est l'enjeu de cette discussion ? Précisément la possibilité d'intégrer les valeurs morales dans une narratologie, dans une analyse rigoureuse des récits. Alors, est-ce que Aristote peut nous aider à le faire ? Peut-on construire une vision judicieuse de la narration à partir du schéma d'Aristote ? Un schéma qui donne aux qualités morales une place fondamentale, dans le sens vraiment d'un fondement. Peut-on se servir de son modèle combinatoire pour toutes les époques ? Là surgissent les doutes, parce que nous sommes tous conscients qu'Aristote appartient à une époque très éloigné de la nôtre, qu'il ne connaissait que l'épique homérique, la tragédie et la comédie, le dithyrambe, la lyrique, dont il parle jamais d'ailleurs, alors que la littérature occidentale a produit ensuite tellement plus de choses. La tragédie moderne, le drame bourgeois, le théâtre d'avant-garde, le conte et la nouvelle de la Renaissance, et surtout un nombre immense de romans, en particulier depuis 4 siècles. De surcroît, si nous sortons de l'Europe et nous pensons aux autres continents, d'autres corpus littéraires différents doivent être pris en compte si l'on veut penser à une narratologie universelle, ce qui a été souvent l'ambition de la narratologie. Le schéma d'Aristote est simple. Il paraît trop simple devant l'immensité du corpus mondial des formes narratives. Et pourtant, sa simplicité est peut-être sa force, à condition qu'on l'interprète comme un système combinatoire et non pas, comme je l'ai dit, comme un système catégoriel. La simplicité des oppositions bon-méchant et échec-réussite peut être nuancée à l'infini. La gamme des nuances morales n'a pas de limite de principe. Elle ne trouve de limite que dans le poids de la tradition. De même, d'innombrables combinaisons peuvent être inventées entre réussite et échec. En outre, on pourrait dire que sur l'os des valeurs morales élémentaires, bien mal, se forme à chaque époque une chair différente. Les sociétés et les religions s'en mêlent. En Europe, les païens et les chrétiens n'ont pas les mêmes critères. Les catholiques et les protestants non plus. Hors d'Europe, les configurations sociales diverses pèsent sur les valeurs adoptées. Peut-on pour chaque culture considérer que l'opposition élémentaire est la même entre le comportement valorisé et le comportement déprécié, quitte à examiner à chaque fois les questionnements particuliers que chaque culture pose à sa façon. C'est à mon avis une démarche qu'il vaut la peine d'adopter pour vérifier son efficacité dans l'interprétation des œuvres littéraires. Il s'agit de relativiser, d'historiciser, non pas pour se dire que nous ne pouvons pas comprendre un dilemme moral d'une autre époque ou d'une autre civilisation, mais au contraire, pour s'efforcer de le comprendre en le contextualisant, c'est-à-dire en sortant de notre ignorance dans la mesure du possible. Par exemple, et je vais conclure, rassurez-vous, la notion de double ordonnance du récit, telle que la présente Aristote, est encore plus ou moins celle que Pierre-Daniel Huet reprend à l'identique, crime puni, vertu récompensée. Mais, à l'époque chrétienne, la justice poétique doit se confronter à bien d'autres défis que dans la Grèce païenne. En effet, on peut dire que dans le monde chrétien, la justice poétique ne va pas sans difficulté. Que le récit fonctionne comme une sorte de dispensateur de peines et de primes, cela n'a jamais choqué les chrétiens. Ils ne l'ont pas inventé, ce système, mais ils l'acclimatent à leur conviction. Et pourtant, la question surgit du rapport entre les sentences du tribunal poétique et les jugements de Dieu. Dans les pages de Reimer que nous avons vues, on trouve un troisième passage qui me paraît intéressant à ce sujet. Voici ce qu'il écrit. La justice poétique exige que la satisfaction soit entière et complète avant que le criminel ne sorte de scène. Et exige aussi que rien ne soit laissé à Dieu Tout-Puissant, rien ne soit laissé à Dieu Tout-Puissant et à un autre monde. Elle ne tolère pas que les spectateurs fassent crédit au poète d'un enfer derrière la scène. Le feu doit rugir dans la conscience du criminel. Les monstres et les furies doivent surgir devant ses yeux avec d'horribles spectacles à machine. Et pourtant, le criminel ne suscite jamais la pitié. Selon Reimer, le poète tragique doit toujours et nécessairement aller plus loin dans la punition que ne le fait un tribunal humain. Mais surtout, et la chose est bien plus étonnante, le poète doit remplacer Dieu. Il ne doit pas montrer dans le récit une justice, disons, imparfaite et nous suggérer qu'on renvoie à Dieu pour une justice parfaite. Dans cette version tragique et chrétienne de la justice poétique, il n'y a pas d'appel au tribunal suprême, divin, qui devrait avoir le dernier mot après le tribunal de l'État et le tribunal de la poésie. Pourquoi il n'y a pas cet appel? Sans doute parce que La justice poétique représente la justice divine. Elle en est l'image, la figure. Mais cette manière de conclure une intrigue n'est certainement pas la seule dans la littérature du monde chrétien. C'est pourquoi on ne peut pas dire que la culture littéraire chrétienne ait donné un avantage absolu au dénouement heureux. Des formes chrétiennes d'éducation morale par la fiction ont été largement pratiquées, comme en témoignent les recueils d'histoires édifiantes qui se terminent par la réussite des gentils contre les méchants. Mais le noir suicide de Phèdre, de la Phèdre de Racine, est aussi chrétien que l'heureux mariage des fiancés de Manzoni, où la bonté triomphe. Si nous admettons que la justice poétique doit être la figure d'une autre justice, elle peut avoir plusieurs fonctions. Elle peut montrer ce que les pouvoirs publics devraient faire pour faire régner la justice sur terre, ou bien elle peut se poser comme une image de ce que sera le jugement de Dieu. À l'inverse, les dénouements que nous pourrions appeler d'injustice poétique, souvent une injustice partielle, ces jugements, ces conclusions de injustice poétique peuvent être interprétées comme des dénonciations de l'inefficacité de la justice humaine. Mais aussi, peuvent-ils transmettre un message sur la fragilité des efforts humains par rapport à la toute-puissance divine? Un dénouement injuste en contexte chrétien peut donc induire le désespoir à l'égard de l'humain et en même temps l'espoir à l'égard du divin. Dans le monde chrétien sécularisé des trois derniers siècles, les choses se compliquent encore. Parce que la narration romanesque a introduit de nouvelles instances pour penser l'action humaine. Plus seulement la volonté humaine et l'intervention divine. Par exemple, la contrainte extérieure sur le personnage devient contrainte des milieux sociaux au lieu d'être contrainte divine ou diabolique. Malgré cela, nous avons des conclusions comme celle de Madame Bovary et de l'éducation sentimentale. Où le romancier, Flaubert, tout en évitant de juger lui-même, met sous nos yeux l'injustice qui règne dans la société, qui fait toujours triompher les lâches et les opportunistes. Dans les dernières pages de Madame Bovary, vous vous en souvenez, sont juxtaposées avec la plus parfaite symétrie et sans commentaire de la part du narrateur, sont juxtaposées la déchéance de Charles, l'innocent, et le triomphe de Homais, le perfide. La double ordonnance, la diplée sustasis d'Aristote, est maintenue, mais elle est inversée, pour montrer qu'il n'y a pas d'espoir, ni dans ce monde, ni dans un autre monde. J'espère que vous pourrez ce soir vous amuser, en discutant avec vos amis, à évoquer des conclusions de romans célèbres, et alors trouver une place dans le paradigme aristotélicien. C'est un jeu que j'aime faire, et peut-être un jeu instructif. Je termine vraiment avec un mot sur le tableau que j'ai affiché. La justice et la vengeance divine poursuivant le crime, c'est un tableau de Prudhon qui a été exposé au salon de 1808, et qui est conservé au Louvre. Les deux figures allégoriques sont la justice humaine et la justice divine. Le peintre aurait pu ajouter un troisième ange, l'ange de la littérature, qui semble sans cesse questionner les deux autres. Merci.
Merci Paolo. J'ai aimé tout de même cette... Ce sont des questions graves et profondes que tu traites, que tu poses. J'ai aimé évidemment que tu soulignes une actualité d'Aristote, qui à mon sens est effectivement le théoricien auquel on doit toujours à un moment revenir, parce que il a beau avoir écrit il y a 2500 ans ses réflexions sur les questions de la représentation, de l'identification au personnage, parce que c'est la question de l'empathie qui est fondamentale, justement pour passer dans cet intermédiaire qui hors du tableau, qui est l'intermédiaire qui est entre le bon et le méchant, parce que évidemment bon et méchant ce sont des catégories un peu trop extrême, alors que ce que recherche le, Aristote pour le spectateur de tragédie, c'est plutôt la question de l'identification et de l'empathie qu'on ne peut avoir qu'avec quelqu'un qui nous ressemble un petit peu, c'est-à-dire qui n'est ni totalement bon, ni totalement méchant. Est-ce que tu vois cette question-là comme étant... parce que comment juger... Comment le spectateur juge-t-il Édipe, justement ? Il n'est pas... ou un personnage qui n'est ni bon ni méchant, à quel on s'identifie. Est-ce qu'on se juge soi-même ?
Je dois appuyer là, oui. Alors, il y a plusieurs questions. Sans doute celle de l'identification.
Tu as ton micro, je pense, ça marche.
Oui, c'est vrai, ça marche toujours. Donc, d'une part, il y a la question de l'identification. Il y a un passage où il dit soit on représente des gens très haut ou très bas ou des gens comme nous. Hein. Et le problème de l'identification est très curieux. Si on pense à la question de l'antithèse tragédie et comédie, parce que finalement nous nous identifions aux personnages hauts qui appartiennent à la tragédie et nous prenons des distances des personnages bas qui appartiennent à la comédie, sans doute, parce que si nous rions de quelqu'un, nous prenons des distances. Donc, nous préférons nous identifier au prince et nous n'aimons pas nous identifier aux esclaves. Ça, c'est la première question. L'autre question intéressante, si on étudie tout ce que Aristote a dit sur Édipe en particulier... il faut voir que Édipe se situe dans une situation contradictoire et au cœur d'une contradiction du discours même d'Aristote. Parce qu'Aristote nous dit dans la poétique que les personnages doivent être cohérents et stables. Hein, c'est une idée que Cicéron, Quintilien, la rhétorique romaine vont reprendre. Le personnage doit être toujours le même au cours d'une histoire. Et donc, il critique un auteur dont nous ne savons pratiquement rien, qui aurait fait pleurer Ulysse, et que donc aurait introduit une modification dans le comportement du personnage, qui, étant courageux, aurait dû toujours se comporter d'une manière courageuse. Donc, cette exigence de cohérence et de constance du personnage est exprimée dans la poétique. Mais si nous prenons ce que, dans l'éthique, Aristote dit d'Édipe, il nous dit très clairement que c'est le cas de quelqu'un qui agit mal sans être méchant. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant, mais agit d'une manière méchante, ce qui est totalement contradictoire avec son mépris pour l'Ulysse qui pleure. Donc, c'est pourquoi je trouve que là, il y a une chose intéressante. D'une part, un besoin de cohérence auquel... nous croyons tous, hein, lorsque nous suivons un récit qui fait agir des personnages, d'autre part, la possibilité d'une contradiction intérieure. Autre volet de cette même problématique, c'est celui du rapport entre l'action et le caractère. Hein. Le caractère doit être non pas exposé dans une bonne pièce selon Aristote, mais doit être compris à travers l'action du personnage. Donc, je vois agir quelqu'un d'une certaine façon, j'interprète cette action comme quelque chose qui témoigne du caractère qui est le sien, son ethos. Mais le cas d'Édipe nous montre que, justement, ça ne marche pas toujours. Hein, il se comporte mal, mais il n'est pas méchant. Donc, cela ouvre une possibilité de complexité bien plus grande, qui n'est pas niée par le schéma trop élémentaire. Au contraire, il faut le penser comme un schéma qui, à partir des données élémentaires, peut produire d'innombrables combinaisons.
Tu as rappelé au départ la scène, je connaissais pas le film de Pasolini, mais on voyait évidemment le rapprochement avec le passage célèbre de Stendhal sur le soldat de Baltimore. Michel Crouzet avait montré que Stendhal s'était basé sur un petit entrefilet d'une gazette des spectacles racontant un épisode un peu comparable au début 19e, mais ayant regardé attentivement moi-même cette gazette des spectacles, clairement l'histoire, cette gazette est entièrement fantaisiste en fait. Elle raconte des histoires elle raconte la vie du théâtre en Amérique, en Afrique, en Asie, comme si l'auteur parisien au début des années 1820 était capable de connaître tout ce qui se passait au fin fond de l'Afrique. Donc c'était, tout ça était totalement inventé, en fait, et Stendhal s'en était inspiré. Mais l'inspiration dernière de tout ça, c'est en fait une scène de Don Quichotte. C'est en fait la scène fameuse du retable de Maître Pierre, hein, qui a été mise en musique par De Falla, à savoir que Don Quichotte se trouve dans un spectacle de marionnettes qu'on retrouve chez Pasolini. Et là, il y a une scène avec les morts qui attaquent un château, et les morts enlèvent la princesse du château, et Don Quichotte, révolté, eh bien, se lève et va mettre en débandade toutes ses marionnettes, va détruire le castelet, va couper les marionnettes en morceaux, au grand dam évidemment du public, et aussi du fameux Maître Pierre qui est le marionnettiste, et en fait, dont on sait, on apprendra par ailleurs, que c'est un brigand. Donc en fait, le marionnettiste lui-même est un brigand. Mais c'est encore une autre question. Mais ce qui nous est dit dans la scène de Don Quichotte, c'est quand même plus ou moins que Don Quichotte est fou, et donc c'est un mauvais spectateur et un mauvais lecteur, on peut dire. Si je t'ai bien compris, en fait, il n'y a pas de mauvais lecteur, parce qu'en fait, c'est la réaction la réaction du peuple pour Pasolini, c'est peut-être une bonne réaction.
Je ne suggère pas de faire comme la populace de Pasolini. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas simplement un fou comme chez Cervantes, ou bien un individu qui se comporte d'une manière folle comme chez Stendhal, mais un public tout entier, ça change la perspective, je trouve. Ça introduit une possibilité de réflexion que Pasolini a voulu introduire certainement dans le sens de nous identifier un petit peu à ce public. Nous sommes tous dans cette situation-là. Bien sûr, il y a des limites. Hein, la limite, c'est le passage à l'action. Nous n'agissons pas, et nous n'agissons pas parce que nous avons une sorte de double conscience. Nous savons, d'une part, participer en pleurant, en ayant des émotions tout à fait comparables à celles que nous avons dans la réalité, dans l'expérience réelle. Mais en même temps, nous savons toujours, comme le comédien de Diderot, nous savons toujours que ce n'est pas vrai, que nous sommes toujours nous-mêmes et ce qui est devant nous est une fiction. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la perspective dans laquelle l'anecdote était exploitée par Barthes ne peut plus tellement être la nôtre aujourd'hui, me semble-t-il. Cette idée qu'il faut absolument remettre à zéro toute empathie, toute participation émotionnelle, etc., pour comprendre une œuvre littéraire, ne me paraît plus adaptée aux exigences de nos réflexions d'aujourd'hui. Bien sûr, faire le contraire et ne croire que la littérature ne sert que à pleurer et à éprouver des battements de cœur, ce serait aussi peu intéressant d'un point de vue théorique que son contraire.
Qui était très intéressant, presque amusant dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est comment, si tu as vu, tu as souligné comment les narratologues français du XXe siècle ont essayé de démoraliser, au sens enlever la morale, les interprétations de propre concernant la morphologie du conte, donc en remplaçant le méchant, le mauvais, par l'antagoniste. Ce qui me rappelait aussi tous les schémas actantiels qu'on avait appris de Grémas, vous savez, pour le théâtre, où il y a les adjuvants, etc. Il n'y a pas de bien et de mal, mais il n'y a qu'une vision très, très disons, perspectiviste, en quelque sorte, du bien et du mal en fonction d'un but ou d'un objet, d'un sujet qui est l'objet de l'action. Je me demandais si cette façon de voir, qui était celle de Brémond et des narratologues, ne correspondait pas également à une évolution. Et c'est peut-être la question, pour le coup, qui va être un peu la question finale de notre discussion, de savoir l'évolution dans le dernier siècle, en vérité, de la fiction. Est-ce que la question morale se pose toujours autant dans la fiction du XXe siècle. J'entends bien que lorsqu'on, la semaine dernière, nous entendions Chantal Thomas nous parler de Sade, et on voit bien que là, il y a juste un renversement absolu du canevas moral habituel, puisque dans chez Sade, on voit la gentille Justine qui, à la fin, alors qu'on croit qu'elle est sauvée, au bout du compte, elle est foudroyée par Dieu, donc elle est vraiment punie de sa bonté, en quelque sorte, alors que Juliette, qui est méchante jusqu'au bout, elle est récompensée. Donc là, on a une inversion totale du schéma aristotélicien. Mais si je prends Proust, bon, alors je suis temps perdu. Où est la dimension? Est-ce que Proust s'adapte à ce type de schéma? Alors, c'est un énorme roman, il y a plein d'histoires, mais est-ce qu'il y a des bons et des méchants?
Je ne sais pas s'il y a des bons et des méchants, mais une conclusion. Une conclusion heureuse.
Il y a une conclusion heureuse, oui.
Ça me paraît, il y a un happy ending dans la recherche, il me semble indiscutable.
Mais est-ce qu'on n'est pas là dans une sorte de fiction un peu amorale, en quelque sorte, qui
oui, veut échapper sûr, à... Oui, bien sûr, mais... Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a un point de départ et on peut s'éloigner autant qu'on veut dans beaucoup de directions différentes. Et que, par exemple, ce que fait Flaubert, c'est renverser un schéma dans un autre sens. Et que ce type de renversement ou de positionnement différent peuvent être innombrables. Mais qu'il est, important de savoir si on peut considérer la caractérisation morale des données dont est fait un récit comme quelque chose de pertinent ou pas. La question donc de Claude Brémond est celle-là. Pour lui, le seul couple pertinent, c'est action-réaction ou bien actant-obstacle. Je disais tout à l'heure, prenez Macbeth. Macbeth, si on le prend moralement, c'est un méchant. Si on le prend comme actant, ce n'est pas un antagoniste, c'est un actant, c'est un héros. Dans la terminologie structuraliste, c'est un héros, Macbeth. Hein? Dans la terminologie aristotélicienne, c'est un méchant. Donc là, il y a deux manières de rationaliser qui sont différentes, deux méthodes différentes. Il faut les soumettre à l'épreuve de l'analyse pour voir quelle est la meilleure. En tout cas, si aujourd'hui nous nous intéressons beaucoup plus à la morale, c'est parce que la littérature du 21e siècle a énormément changé par rapport à la littérature du 20e siècle.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est évident. Aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons l'autobiographie, l'enquête et le témoignage. Transitivité parfaite, aurait dit Barthes. Nous sommes en plein dans la transitivité. La littérature intransitive est la littérature du XXe siècle. Elle a fait 100 ans. Voilà. Elle n'y est plus. Donc, c'est clair que les exigences morales nous entraînent dans ce sens et elles risquent de nous entraîner trop loin vers des conclusions très différentes de celles que je propose de faire à partir d'une réhabilitation de la question morale.
D'accord. Mais c'est ce que je voulais t'entendre dire. À savoir qu'en quelque sorte, la littérature du XXe siècle, bon, on parle très grossièrement, très globalement, t'es une sorte peut-être de parenthèse un peu... Je ne sais pas si vous dire une parenthèse...
Je ne sais pas, mais c'est quelque chose de très inattendu. Hein, nous sommes... Toi, tu es plus jeune que moi, mais nous avons assez connu la dernière partie du XXe siècle et on ne s'attendait pas du tout à ça.
Non. Ben non.
Du tout. Hein, au moment où il y avait, je ne sais pas, l'école du regard, le nouveau roman, etc., ou le théâtre de l'absurde, etc., on ne s'attendait pas du tout à une littérature comme celle qu'on a au XXIe siècle.
Voilà, c'est le retour de la morale après ce qu'on avait pensé être une sorte de triomphe définitif du formalisme, de la forme. Mais comme tu le dis, le retour de la morale... Pour le meilleur comme pour le pire, mais ça peut être aussi pour le meilleur. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui reste en fait un fil rouge depuis l'Antiquité, depuis le début de l'histoire des fictions jusqu'à nos jours. Je pense que cette réflexion est vraiment, vraiment, vraiment importante et je vous invite à lire le livre de Paolo Tortonese sur la question. Et peut-être que c'est un livre qui pourrait aussi donner un peu plus de subtilité aux lecteurs les plus moralisants, un peu plus, les plus censeurs de notre temps. Non, je ne sais pas. Bon, merci, en tout cas. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.